Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 60, Daf Samech. Bonne écoute et bon limoud.
El Hakatef, détenture de 15 coudées pour l'épaule, c'est-à-dire les côtés de l'entrée de la cour. Comme le Tosfot le fait remarquer dans Maseret Eruvin, Daf Bet Amud Bet, la Gemara choisit ce pasouk dans Shemot Lametret et non pas dans Shemot Kavzaïn que nous avons rapporté précédemment, parce que dans Shemot Lametret, le pasouk poursuit en disant « Et pour la deuxième épaule, donc pour le deuxième côté de la porte, des deux côtés de la porte, il y avait des tentures de 15 coudées. » Donc c'est une répétition inutile. Forcément, le deuxième pasouk parle de la longueur de ces tentures qui étaient donc 15 coudées de chaque côté, laissant une ouverture de 20 coudées. Le premier pasouk, qui est superflu, parle de la hauteur de ces tentures. Le pasouk veut dire donc de même qu'à l'entrée, il y avait une hauteur de 15 coudées, tout autour, les tentures avaient une hauteur de 15 coudées. Ou Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que le pasouk veut dire? Dans Shemot Kavzain, lorsqu'il dit Heamot, il parle d'une hauteur de 5 coudées. Misfat, Misbeach ou Lemala, le pasouk décrit la hauteur des tentures à partir du sommet de l'autel. Donc, puisque l'autel avait 10 coudées de hauteur, il était forcément protégé par les tentures, il y avait encore une hauteur supplémentaire de 5 coudées pour couvrir même celui qui se trouvait sur l'autel. Ou Ma Talmud Lomar, et qu'est-ce que le pasouk veut dire, toujours dans Shemot Kavzaïn, Veshalosh Amot Komato, la hauteur de l'autel était de 3 coudées, alors que finalement nous avons vu que sa hauteur était de 10 coudées. Rabbi aussi répond, Misfat, sauvez-vous le mala. Le pasouk parle de la hauteur de l'autel à partir de la passerelle qui entourait l'autel. Les Kohanim se servaient de cette passerelle pour s'occuper des sacrifices qui brûlaient sur l'autel. Cette passerelle se trouvait à 6 coudées du sol, et donc à partir de là, il y avait 3 coudées de hauteur, puis les cornes qui dépassaient de l'autel avaient une coudée de hauteur, donc en tout 10 coudées. Et l'agma conclut, Rabbi Yehuda ki gamir gzera shava, et Rabbi Yehuda lui applique cette gzera shava, dont le support est le terme de ravua, carré, be rachva ou de gamir, il l'applique pour déterminer la largeur de l'autel, comme nous l'avons vu précédemment, qui selon lui était 10 coudées sur 10 coudées. En l'agmara demande, ou le Rabbi Yehuda, et selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que la hauteur de l'autel était de 3 coudées, et la hauteur des tentures était de 5 coudées. Ha kamitrazé Kohen. Finalement, lorsque le Kohen se trouve au sommet de l'autel, il se voit de l'extérieur. Donc finalement, à quoi servent les tentures? L'agmara répond, Nehi de Kohen mitrazé. Il est vrai qu'on peut voir le Kohen qui se trouve au sommet de l'autel, avoda de biadol mitrazé, mais on ne peut pas voir le service, donc le sacrifice, qui se trouve entre ses mains. Donc finalement, les tentures protègent quand même les sacrifices qui sont offerts sur l'autel des regards indiscrets. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Nuntet. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Samer au milieu de la sixième ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda concernant le pasouk dans Malachim Aleph Chet, où le pasouk dit que Shlomo HaMelech a sanctifié la cour du sanctuaire pour y faire brûler les graisses des sacrifices, car l'autel de cuivre était trop petit pour contenir les sacrifices qui devaient y être sacrifiés. Alors selon Rabbi Yehuda, le texte est compris à la lettre. Selon Rabbi aussi, il s'agit du nouvel autel qu'a érigé Shlomo HaMelech. Alors la Gemara demande, Bishlama le Rabbi Yehuda, on comprend bien selon Rabbi Yehuda, Haynu Dirtiv Kidesh, nous comprenons le pasouk qui dit que Shlomo HaMelech a sanctifié la cour du sanctuaire. Et là, le Rabbi aussi, Maïkidesh. Mais selon Rabbi aussi, qui dit qu'il ne s'agit pas de la cour du sanctuaire, finalement, pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech, ou qu'est-ce que le pasouk veut dire lorsqu'il a dit que Shlomo HaMelech a sanctifié la cour du sanctuaire? L'Akma répond, Lehamidba Misbeach. Le pasouk veut dire que Shlomo HaMelech a sanctifié une partie de la cour du sanctuaire pour y dresser un autel. La Gemara demande, Bishlama le Rabbi aussi, on comprend bien le pasouk selon Rabbi aussi, Haynu Dirtiv Katan, c'est cela que le pasouk dit, que l'autel de cuivre était trop petit, on en a donc érigé un autre de pierre à sa place. Et là, les Rabbi Yehuda, mais selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que même l'autel que Shlomo HaMelech avait érigé était trop petit, Maïkatan, qu'est-ce que le pasouk veut dire lorsqu'il dit que l'autel de cuivre était trop petit, puisque même celui que Shlomo HaMelech a érigé était aussi trop petit? L'agma répond, Hachikama, c'est cela que le pasouk veut dire. Mizbach Avanim Shasa Shlomo Tachat Mizbach Hanechoshet, l'autel de pierre qu'a érigé Shlomo HaMelech pour remplacer l'autel de cuivre qu'avait fabriqué Moshe Rabbeinu, Katanava, était trop petit pour y contenir les sacrifices. C'est pour cela qu'il a dû sanctifier la cour du sanctuaire pour y brûler les sacrifices. Comme l'Agmara l'a expliqué dans le daf précédent, cette discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda dépend d'une autre discussion concernant la taille de l'autel. En effet, Rabbi Yehuda pense que la taille de la longueur et de la largeur de l'autel était le double de celle prescrite par la Torah. Il la prend par une Xera Shava dont le support est le terme de Ravua, employé concernant l'autel qui a été construit dans le désert et celui décrit par le Navi Yechezkel. Tandis que, selon Rabbi Yossi, la taille de sa longueur et de sa largeur est celle décrite par la Torah, cependant sa hauteur était le double de la longueur ou de la largeur. Donc, la hauteur de l'autel était de 10 coudées de haut. Et cela, il l'apprend justement par une Xera Shava dont le support est le terme de Ravua, employé concernant l'autel et concernant l'autel qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire. En l'Agmara demande de Maïpligé, en quoi discute Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? Pourquoi celui-ci, donc Rabbi Yehuda, choisit de comparer l'autel à celui décrit par Yechezkel, tandis que Rabbi Yossi choisit de le comparer à celui qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire? En l'Agmara répond, Mar Savar, un des deux pense, Rabbi Yehuda pense, Danin Chutz Michutz. On va apprendre et comparer les lois de ce qui se trouve à l'extérieur du sanctuaire d'un autre objet ou d'un autre autel qui se trouve à l'extérieur du sanctuaire. Il faudra donc le comparer à l'autel décrit par Yechezkel. Ve'en Danin Chutz Mipnim, mais on ne n'apprend pas les lois et on ne compare pas les lois de l'autel qui se trouve à l'extérieur du sanctuaire à celui qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire. Omar Savar, tandis que l'autre pense, Rabbi aussi pense, Danin Klimikli, on va apprendre les lois et on va comparer un ustensile mobile, donc l'autel qui se trouvait dans le désert, à un autre ustensile mobile, donc l'autel qui se trouvait à l'intérieur du sanctuaire. Ve'en Danin Klimibinyan, et on n'apprend pas les lois ni on ne compare un ustensile mobile, donc l'autel qui se trouvait dans le désert, à un autel qui est construit et fixé au sol, comme celui décrit par Yechezkel. Amar Rava Moder Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Yossi, Bedamim, concernant le sang du sacrifice. C'est-à-dire, même si Rabbi Yehuda pense que les graisses du sacrifice peuvent être brûlées à même le sol de la cour du sanctuaire, le sang doit être impérativement aspergé sur l'autel. Il le prouve de la manière suivante, Détania, car il est enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, la veille de Pessah, lorsqu'il y avait beaucoup de sacrifices à offrir, et souvent, il y avait du sang qui se répandait par terre. Il remplissait un verre, donc un récipient de sang des mélanges qui se trouvaient sur le sol, et le versait sur l'autel. Car s'il est arrivé que le sang d'un des sacrifices s'est répandu sur le sol après avoir été recueilli dans un ustensile de service, il se trouve que cette aspersion rendra le sacrifice valable. Alors Rava demande, Viis al Kadatar, s'il te vient l'idée de penser que Sava Rabbi Yehuda Kula Azara Mikacha, que Rabbi Yehuda pense que toute la cour du sanctuaire est sanctifiée en tant qu'autel, pourquoi était-il nécessaire de recueillir le sang dans un ustensile pour le verser ensuite sur l'autel? Haïta Vidale Mitzvate. Voici que la mitzvah concernant l'aspersion du sang a déjà été accomplie lorsque le sang s'est répandu sur le sol. Il n'est pas nécessaire de l'asperger sur l'autel pour que le sacrifice soit valable. Alors, la Gemara réfute, ve dilma mishum de kasavar, peut-être que c'est parce que Rabbi Yehuda pense, shficha mikoach adam bainan, il faut que le sang soit versé sur l'autel par une action volontaire de l'homme, et la raison pour laquelle il faut recueillir ce sang, c'est parce que peut-être qu'il s'est répandu par inadvertance. Alors, Rava répond, imken, si c'était uniquement pour cela, nishkele ve nashpichle adurte, on n'avait qu'à le recueillir dans un récipient et le verser sur place. Pourquoi est-il nécessaire de rapporter ce sang pour le verser sur l'autel? Alors la Gemara réfute, Vedilma Mishum de Bainan Mitzvah Mina Mouchar. Peut-être que la raison pourquoi il a fallu verser le sang de ses sacrifices sur l'autel pour accomplir la mitzvah de la meilleure manière, qui est de verser le sang sur l'autel et non pas sur le sol. Mais en fait, peut-être que Rabbi Yehuda maintient son opinion, même concernant le sang. Donc finalement, il n'y a pas de preuve pour l'opinion de Rava. Amar Rabbi Lazar, Mizbeach Shenifgam, l'autel qui s'est ébréché, En Ochlin Begino Shiare Mincha. On ne peut pas, donc les Kohanim ne peuvent pas consommer les restes des offrandes à base de farine en s'appuyant sur l'autel. C'est-à-dire qu'il faut que l'autel soit entier pour pouvoir consommer les restes des offrandes à base de farine. Chez Neymar, car le Pasuk dit dans Vaikrayud, Ve ichloa matzot etzel amizbeach, et consommer les restes de la mincha sous forme de matza, c'est-à-dire de pain non levé, à côté de l'autel. Alors la question se pose, Vechi etzel amizbeach achloa, était-il nécessaire de consommer ces restes de mincha à côté de l'autel, alors que ceux-ci peuvent être consommés dans toute la cour du sanctuaire? Et là, plutôt, c'est cela que le pasuk veut dire. Bizman shehu shalem, ces restes de mincha peuvent être consommés uniquement lorsque l'autel est entier, parfait, velo bizman shehu chaser, et non pas lorsqu'il lui manque un morceau, c'est-à-dire lorsqu'il est ébréché. Ashkechan shiare mincha, on a trouvé un pasuk concernant les restes de korban mincha, koche kodashi menalan, d'où sait-on qu'on ne peut pas consommer la viande des sacrifices d'une sainteté suprême lorsque l'autel est ébréché. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk poursuit en disant Kodesh Kodashim, donc que cette mincha a le statut d'un sacrifice d'une sainteté suprême. Alors, par le moyen d'une Xera Shava dont le support est le terme de Kodesh Kodashim, on compare la korban mincha à tout le sacrifice d'une sainteté suprême. Donc, de même que la mincha ou les restes de la mincha ne peuvent pas être consommés lorsque l'autel est ébréché, il en sera de même pour les sacrifices d'une sainteté suprême. Kodashim kalim minayin, d'où sait-on qu'il en est de même pour les sacrifices d'une sainteté légère, donc que leur viande ne peut pas être consommée lorsque l'autel est ébréché? La Gemara répond à Marabaye, Atia Midrasha de Rabbi Yossi, nous l'apprenons d'une interprétation exposée par Rabbi Yossi. D'Etania, car il est enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi Omer Shlosha Dvarim, Rabbi Yossi a récité trois choses, Mishum.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Samech Amud Bet, Gimel Skenim, au nom de trois sages, Veze Echad Mehem, et voici un de ses enseignements. Rabbi Ishmael Omer, Yachol Ya'ale Adam Maaser Sheni Lirushalayim Viyochlenu Bizmanazé. Est-il possible qu'un homme fasse monter la seconde dîme destinée à être consommée dans la ville d'Yerushalayim, donc qu'il la fasse monter à Yerushalayim et qu'il la mange de nos jours lorsque le Beth Amikdash est détruit? Une réponse est impossible. Védinou, on pourrait le déduire par un raisonnement de comparaison, ce qui s'appelle Binyan Av. Bechor ta'un ava'at makom. Le premier-né animal nécessite le fait qu'il soit amené à l'endroit, c'est-à-dire à Yerushalayim, pour être offert au Beth Amikdash. Ou ma'aser ta'un ava'at makom. Et la seconde dîme nécessite aussi d'être amenée à un endroit, c'est-à-dire à la ville de Yerushalayim. Ma bechor eno ela bifne abayit. De même que le premier-né animal ne peut être offert et consommé dans la ville d'Yerushalayim que lorsque le Beth Amikdash existe. Af ma'aser eno ela bifne abayit. Ainsi, la consommation de la seconde dîme de la ville d'Yerushalayim n'existe que lorsque le Beth Amikdash existe. Mais après qu'il a été détruit, la seconde dîme ne peut plus être consommée à Yerushalayim. En la Braïta réfute ce raisonnement en disant « Ma le bechor sheken ta'un matan damim ve'emurim legabe misbeach » Comment peux-tu comparer la seconde dîme au premier-né animal alors que ce dernier nécessite une offrande de sang et de graisse sur l'autel, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme? Alors il réfute cette réfutation en disant « Bikurim yuchichu » On pourra quand même prouver ce même principe des bikurim, les prémices, qui sont offerts au Beth Amikdash. Il y a alors toute une cérémonie où, entre autres, ces fruits sont balancés et le propriétaire remercie HaKadosh Baruch Hu pour lui avoir donné ces fruits. Puis après, ces prémices sont données au Kohen. Ceux-ci ne sont offerts que lorsque le Beth Amikdash existe. Il en sera de même pour la seconde dîme, qui ne pourra pas être consommée à Yerushalayim après la destruction du Beit HaMikdash. En l'agma réfute, « Ma le bikurim sheken teunim hanacha » Comment peux-tu prouver et comparer donc la seconde dîme aux prémices, alors que ces derniers nécessitent le fait d'être déposés à côté de l'autel, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme. Alors Rabbi Ishmael conclut, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit dans Dvarim Yudbet, Va'avetem Shama Olotechem, etc. Vous amènerez là-bas, donc à Yerushalayim au Beit HaMikdash, vos korbanola. Le pasuk poursuit en disant, et vos autres sacrifices, vos secondes dîmes, etc. et vos premiers-nés animaux. Mais Kishma Aser le Bechor, le pasuk juxtapose et par conséquent compare la seconde dîme au premier-né animal. Et nous arrivons à la conclusion suivante. Ma Bechor eno ela bifna bait, de même que le premier-né animal ne s'offre et ne se consomme que lorsque le Beit HaMikdash existe. Af ma Aser eno ela bifna bait, ainsi aussi la seconde dîme ne peut être consommée à Yerushalayim que lorsque le Beit HaMikdash existe. Alors avant de poursuivre son raisonnement, la Gemara questionne la Braïta. Pourquoi a-t-on eu besoin d'un pasouk alors qu'on aurait pu poursuivre le raisonnement par comparaison, le Binyanav, en disant « Venedar Dina », on n'a qu'à poursuivre ce raisonnement « Venete Bema'atzad » et on n'a qu'à déduire le fait que la seconde dîme ne se consomme à Yerushalayim que lorsque le Beit HaMikdash existe, par le point commun des deux choses, donc le premier-né animal et les prémices qui sont tous deux des offrandes qui n'existent que lorsque le Beit HaMikdash existe. Il en sera de même pour la seconde dîme qui doit être amenée à Yerushalayim et ne pourra être consommée que lorsque le Beit HaMikdash existe. Une fois qu'on emmène le point commun entre les deux sources, on ne peut plus réfuter les réfutations présentées par la Braïta, car chacune des deux sources n'a pas ce point de réfutation qu'à l'autre source. Donc finalement, en appliquant ce raisonnement de comparaison par le point commun de ces deux choses, on peut appliquer ce raisonnement et déduire que la seconde dîme ne pourra pas être consommée lorsque le Beit HaMikdash est détruit. L'Agma répond, « Mishum deika le mefrach » C'est parce qu'il est possible de réfuter ce raisonnement provenant de ces deux sources en disant « Ma le'atzad hashave shebahem » Comment peux-tu comparer la seconde dîme à ces deux sources qui ont donc un point commun qui doivent être offerts à Yerushalayim ?« Sheken yesh bahem tzad mizbeach » Car ils ont tous les deux un rapport avec l'autel, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme qui n'a aucun rapport avec l'autel. Donc finalement, il pourrait être possible de la consommer dans Yerushalayim. On a eu besoin d'un pasouk pour prouver le contraire. Alors, la Gemara va se demander comment se fait-il que Rabbi Ishmael est persuadé que le premier-né animal ne se consomme que lorsque le Beit HaMikdash existe. Alors, la Gemara demande « Maïka Savar, qu'est-ce que pense Rabbi Ishmael ?»« Ika Savar, Kedusha, Rishona, Kitcha, Leshata, Vikitcha, Latid, Lavo » S'il pense que la première sanctification de la ville de Yerushalayim a existé pour le moment où la sanctification a eu lieu, et cette sanctification est restée même pour l'avenir, après la destruction du Beit HaMikdash. Si c'est ainsi, Afilu Bechornami, même le premier-né animal pourrait être consommé aujourd'hui, car selon l'avis qui pense que la sainteté du sanctuaire reste pour l'avenir, il est possible d'offrir des sacrifices même si le Beit HaMikdash est détruit. Il suffit donc d'ériger un autel sur place pour pouvoir offrir des sacrifices, donc finalement pour eux-mêmes consommer le premier-né animal. Et si Rabbi Ishmael pense que la sainteté du sanctuaire n'existe pas pour l'avenir, et par conséquent, lorsque le Beit HaMikdash a été détruit, sa sainteté a disparu. Rabbi Ishmael aurait pu se poser la même question au sujet du premier-né animal. Pourquoi donc semble-t-il qu'il lui est évident que le premier-né animal ne peut pas être consommé après la destruction du Beit HaMikdash? Il est vrai que, puisque nous pensons que la sainteté du sanctuaire n'existe plus une fois qu'il a été détruit, donc le premier-né animal ne peut plus être sacrifié après la destruction du Beit HaMikdash, mais dans le cas où il se trouve dans la même situation que la seconde dîme, donc lorsqu'il a été sacrifié avant la destruction du temple, il ne reste donc que le fait de consommer sa viande. On pourrait se poser cette question donc, est-ce que cette viande peut être consommée une fois que le Bétamigdash, ou plutôt l'autel, a été détruit? Il faudra préciser cependant, comme le précise le Tosfot, qu'il s'agit d'un cas où le sanctuaire a été détruit, mais la ville, donc les murailles de Yerushalayim, n'ont pas encore été détruites, et la sainteté de Yerushalayim existe toujours. Car sinon, de toute façon, ni le premier animal, ni la seconde dîme ne pourraient être consommés dans la ville de Yerushalayim. L'Agma répond, Amar Ravina, le Olam Kasavar Lokitcha. Toujours pourrais-je te dire que Rabbi Ishmael pense que la sainteté du sanctuaire n'existe pas pour l'avenir. Donc, une fois que le sanctuaire a été détruit, sa sainteté a disparu. Et ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit du cas que nous avons présenté précédemment. D'un premier animal dont le sang a été aspergé sur l'autel avant la destruction du sanctuaire. Et le sanctuaire, donc l'autel, a été détruit. Mais sa chair existe toujours. Cependant, Rabbi Ishmael n'a pas de doute à ce sujet que cette viande ne peut plus être consommée, même si les murailles de Yerushalayim existent toujours, car ve'itkash besaro ledamo, car le pasouk dans Bamidbar Yutret a juxtaposé et comparé la viande de ce sacrifice à son sang. En effet, le pasouk dit, concernant le premier-né animal, et tu aspergeras leur sang sur l'autel, et tu feras brûler leur graisse sur l'autel, et leur viande t'appartiendra donc au Kohen pour être consommée. Dans ce pasouk, la viande du sacrifice est comparée à son sang, et nous disons donc « Madamo bemisbeach » de même que son sang nécessite l'autel pour pouvoir l'asperger. « Av besaro bemisbeach » ainsi sa viande nécessite l'autel, il faut donc que l'autel existe pour pouvoir consommer sa viande. « Ve'ate ma'aser vi'alif mi'bechor » et nous apprenons la seconde dîme des lois du premier animal par une autre juxtaposition que nous avons vue précédemment dans Dvarim Yudbet. Alors la Gemara s'étonne, Vechi davar alamed be'ekesh, choser omelamed be'ekesh, est-ce que quelque chose que nous avons appris par le principe de la juxtaposition peut-il être enseigné ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition? Alors qu'ici, premièrement, nous apprenons par la juxtaposition de la viande du sacrifice à son sang que sa viande nécessite l'existence de l'autel pour pouvoir être consommée. Puis, la deuxième juxtaposition du premier-né animal à la seconde dîme nous enseigne qu'il en est de même pour la seconde dîme. L'Agma répond, Maaser Dagan Chulinhu. La seconde dîme provenant des céréales est considérée comme quelque chose de profane, et cette restriction que quelque chose que nous avons appris par la juxtaposition ne peut pas être enseigné ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition n'existe que pour les lois des sacrifices, mais pas pour les objets profanes. La Gemara demande, Hanicha le mandamar, on comprend bien cette réponse selon l'avis qui dit plus haut dans le chapitre précédent, Batar la Medazlinan, que pour appliquer cette restriction, nous suivons le sujet qui va apprendre la loi par le moyen de la juxtaposition. Donc puisque le sujet qui va apprendre cette loi et la seconde dîme qui est considérée comme quelque chose de profane, nous pouvons dire donc que cette restriction ne s'applique pas. Et là, le mandamar batar melamenazlinan, mais selon l'avis qui dit que nous suivons le sujet qui enseigne la loi, et c'est ceci qui détermine si la restriction s'applique ou non, puisque la source de l'enseignement, c'est le premier-né animal qui est un sacrifice, on ne peut pas étendre donc ce qu'on a appris par le moyen de la juxtaposition à quelque chose d'autre, par une autre juxtaposition. Donc, Maïka le Memar, que pourra-t-on dire? L'Agma répond, Dam ou Bassar Chadamiltaï. Le sang et la viande du sacrifice ne font qu'une chose. C'est-à-dire, comme l'explique le Aouchlaner dans Maserhet Makot Daf Yutet Amudbet, il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition qui nous enseigne que de même que le sang ne peut être aspergé sur l'autel que s'il est parfait, il en est de même pour la consommation de la viande du sacrifice, mais plutôt que la viande du sacrifice dépend du sang de celui-ci, ou plutôt de la possibilité de l'asperger sur l'autel. Autrement dit, le passouk nous enseigne que la viande du sacrifice peut être consommée, que lorsqu'il est possible d'asperger le sang sur l'autel. Donc finalement, le passouk nous enseigne que la viande et le sang du sacrifice sont liés. Puisque c'est ainsi, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une loi apprise par le moyen d'une juxtaposition, et donc elle peut être étendue ailleurs. En tout cas, nous voyons dans cette braïta de Rabbi Ishmael que la viande du premier-né animal ne peut être consommée que lorsque l'autel est parfait, bien qu'il ne s'agisse que d'un sacrifice d'une sainteté légère. Abaye élargit cette loi à tous les autres sacrifices d'une sainteté légère, et il arrive donc à la conclusion que tous les sacrifices de sainteté légère ne peuvent être consommés que lorsque l'autel est parfait. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Samer. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Samer Aleph. Nous commençons Daf Samer Hamoud Bet au milieu de la 9e ligne du bas de la page. Nous avons vu dans le Daf précédent que les restes de l'offrande à base de farine qui s'appelle la mincha ne peuvent être consommés que lorsque l'autel est parfait. La Gemara a appris par le moyen d'une Xera Shava qu'il en est de même pour les restes ou la viande de tous les sacrifices d'une sainteté suprême. Nous avons vu aussi une braïta rédigée par Rabbi Ishmael, selon laquelle la viande du premier-né animal ne peut être consommée que lorsque l'autel est parfait. Abaye a déduit de là qu'il en est de même pour tous les sacrifices d'une sainteté légère. En la Gemara dit, Kisalik Ravin, lorsque Ravin est monté de Babylone en Eretz Israël, Amra Leshmata Kameh de Rabbi Irmia, il a répété cet enseignement, donc de Abaye, devant Rabbi Irmia. Rabbi Irmia dit là-dessus, Amar, Bablae Tipshae, Babylonien idiot, Amtul de Atve Bahara Hashucha, c'est parce qu'ils habitent un pays obscur, Amre Shmata de Mechashcha, ils disent des enseignements obscurs, Lo Shamia Lehu, n'ont-ils pas entendu la Braïta qui dit Hadetania, Beshat Siluk Masaot, lorsque les campements partent en voyage, donc lorsqu'ils étaient dans le désert, et ils démontent le sanctuaire, Kodashim Nifsalim, les sacrifices qui restent encore à ce moment sont invalidés, Vezavin ou Metzoraim Mishtalchim Chutz Lamechitza, cependant ceux qui sont impurs par l'impureté du Zav ou les lépreux sont renvoyés en dehors de l'enceinte, autrement dit, ils ne peuvent pas pénétrer dans le camp, ni à plus forte raison à l'emplacement du sanctuaire. Apparemment donc, l'emplacement du sanctuaire garde sa sainteté même lorsqu'il est entièrement démonté, et l'autel est aussi démonté. On ne peut donc pas considérer que les sacrifices sont sortis de l'enceinte qui leur est attribuée, mais plutôt la raison pour laquelle les sacrifices sont invalidés, c'est parce que l'autel est démonté. Betania Idar, cependant, il est enseigné dans une autre braïta, Beshne Mekomot Kodashim Nechalim, il y a deux endroits où les sacrifices peuvent être consommés. Le premier, c'est lorsque le sanctuaire se trouve à sa place. Le second, n'importe où il se trouve en chemin. Donc, en suivant le sanctuaire démonté, on peut consommer les sacrifices. Nous voyons dans cette seconde braïta que les sacrifices peuvent être consommés même après que le sanctuaire a été démonté. Ces deux braïtot se contredisent. My love, n'est-ce pas que c'est ainsi qu'il faut comprendre ces braïtot? Ha, celle-ci, la première braïta, parle de Kodshe Kodashim, de sacrifices d'une sainteté suprême qui, eux, sont invalidés lorsque l'autel est démonté. Ha, Bekodashim Kalim, tandis que celle-ci, la seconde braïta, parle de sacrifices d'une sainteté légère qui, eux, ne sont pas invalidés lorsque l'autel est démonté. Donc, comme le précise la Shita Mukubetset, même s'il est vrai que nous avons vu que l'opinion de Rabbi Ishmael est que le premier-né animal ne peut plus être consommé lorsque l'autel est détruit, mais cette loi ne s'applique que pour le premier-né animal et non pas pour les autres sacrifices d'une sainteté légère. Cette braïta est donc une preuve contre-abayée qui compare les sacrifices d'une sainteté légère au premier-né animal. La Gemara répond à Maravina, Idi veidi bekodashim kalim. Celle-ci et celle-ci, donc les deux braïtot, parlent de sacrifice d'une sainteté légère, velokashia, et il n'y a pas de question, donc de contradiction, entre les deux braïtot.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.